c'est dégueulasse. Dégueulasse. J'étais scandalisé. Ah oui, parce que vous, vous étiez au Stade de France hier soir? Un peu que j'y étais au stade. Et je te dis pas, scandalisé qu'on était, moi et mes potes, et plein de gens. Ça vous a vraiment choqué alors d'entendre conspuer la Marseillaise? Qui s'y raconte de lui? Mais moi, je fais partie des gens qui ont conspué la Marseillaise. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est pas la Marseillaise qu'on a conspué. Moi, monsieur, je suis patriote. Vous avez rien compris, hein, les médias. C'est pas la Marseillaise qu'on a sifflé. C'est la chanteuse. Parce qu'il faut pas nous prendre pour des cons. On a bien vu que c'était pas Mireille Mathieu qui chantait. Surtout avec les écrasiens. Elle avait beau essayer de l'imiter, on l'a bien vu que c'était pas elle. C'est pour ça qu'on a gueulé. Parce que nous, on vient au Stade de France pour entendre la Marseillaise chantée par Mireille Mathieu. Bon, ça aurait été Sardou, on n'aurait pas fait d'histoire. Mais là, en plus, c'était une bougnole qui essayait de chanter comme Mireille Mathieu. Alors on a sifflé. C'est normal, parce que la Marseillaise, c'est la France, et la France, c'est Mireille Mathieu. Informé de la véritable raison pour laquelle la Marseillaise avait été huée, le président de la République et le gouvernement sont revenus sur les mesures prises en conseil extraordinaire pour sanctionner un acte que l'on avait d'abord repris pour un outrage inadmissible envers l'emblème de la République française. Et les sifflets qui visaient en réalité la chanteuse Lame ne sont plus à mettre que sur le compte d'une manifestation de racisme ordinaire, ce qui, quoique répréhensible, est bien entendu beaucoup moins grave. Le ministre des Sports a cependant indiqué qu'une commission d'enquête serait chargée de faire toute la lumière sur cette affaire.
Bonjour à toute l'équipe. Je voudrais juste dire que je ne me sens pas du tout, mais pas du tout solidaire du sentiment outragé et néanmoins patriotique qui est exprimé par Madame Bachelot et Monsieur Laporte suite au fait que la Marseillaise a été sifflée au cours d'un match France-Tunisie. Mais pas du tout solidaire. Par contre, je me sens outragé personnellement par les propos de monsieur madame Bachelot et monsieur Laporte. C'est du n'importe quoi, et puis une nouvelle fois c'est l'occasion quoi. Les boucs émissaires sont là, heureusement qu'il y a des boucs émissaires, parce que ça évite de regarder et les problèmes de la crise et les problèmes d'immigration dont l'émission là il y a 2 ou 3 jours a parlé avec le reportage du photographe qui a fait un film là, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, et puis tout le reste quoi. Voilà, je ne suis pas solidaire, je suis un mauvais Français. Allez, ciao, c'était Pierre du Vigan.
Salut Daniel, je voulais te dire, mais vraiment, elle est belle cette France qui s'indigne. On a sifflé la Marseillaise. Vite, cellule de crise à l'Élysée. Honte à ceux qui ne respectent rien. C'est vrai quoi, le sport, c'est beau. Il y a plein de riches, d'archi-riches, plein de dopés. Et puis encore plus, cette France qui s'indigne par la voix des représentants du gouvernement actuel, c'est celle qui n'est jamais indignée quand on vire les ouvriers, quand on ferme les usines, quand on remplit à nouveau les caisses des banques, alors qu'on demande au peuple de bosser 41 ans au lieu de 40 ans. C'est celle qui a toujours raison, qui dépense les deniers du citoyen et qui nous joue la pantomime de l'indignation tout en nous prenant pour des gogos. Eh ben voilà, c'est cette belle France qui donne toujours des leçons. Merci, c'était Morissette du 14e, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Sherazade. Je vous appelle au sujet du match de football qui a eu lieu hier entre la Tunisie et la France. Tout le monde a sifflé, et derrière, on est choqué, on est indigné. Le mot indigné, c'est parce qu'ils connaissent la dignité, ces gens-là. Sarkozy, surtout, il connaît la dignité. Tout ce qu'ils demandent, tous ces gens-là, c'est dites pardon, pardon, excusez-nous de vous avoir massacré vos pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Excusez-nous de nous avoir torturés. Excusez-nous de nous avoir colonisés. C'est tout ce qu'on demande, pardon, pardon. Puis franchement, la Marseillaise, si les gens aiment ça, qu'ils l'achètent, surtout Sarkozy, qu'ils laissent tomber le disque de sa femme, qu'ils se le mettent en boucle et s'éclatent avec, et puis voilà. Moi, franchement, ça va là. Il faut comprendre ce que ça veut dire, la dignité, avant d'en parler. Gros bisous, et puis merci à cette émission qui me fait connaître des gens superbes. Vraiment, vous êtes des... je parle surtout des auditeurs qui appellent. Je me dis, il y a encore des gens intelligents sur Terre. J'y croyais plus. Gros gros bisous, ciao.
Mon numéro de téléphone est 0032 2 345 82 30. Bah écoute, salut Daniel. Voilà, ça y est, c'est l'apocalypse. Là, je pense qu'on a touché le fond là, parce que quand je vois ce que déclare le ministre allemand des Finances, Peer Steinbrück, alors là, je me dis que non, ça c'est là, c'est terminé. Le mec, il a fait allusion à Karl Marx. Bah là, il est dans les jours qui viennent de s'écouler, en disant que certaines parties de la théorie de Marx ne sont pas si fausses comme celles que le capitalisme finit par s'autodétruire à force d'avidité. Alors, il a dit ça dans le Spiegel. Alors là, je pense que si lui en arrive à dire ça, c'est que là, on est vraiment cuit, quoi. Eh bien, on va se préparer à l'enterrement, alors. Ciao.
Ouais, bonjour, c'est Robert d'Annecy. Je vous appelle pour savoir si Bouygues, vu qu'il est patron de TF1, s'il a aussi des sans-papiers à TF1. Voilà, je trouve ça marrant.
Oui, bonjour, Eric Aubin de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, CGT. Oui, pour vous informer donc que nous occupons le chantier Bouygues, rue de Montalembert, depuis ce matin, où près d'une trentaine de sans-papiers qui travaillent sur ce chantier se sont mis en grève. Et donc nous attendons des réponses de la direction concernant la suite pour ces salariés. Voilà, merci, au revoir.
Et ben voilà, on est rattrapé par l'actualité ce matin, donc une occupation d'un chantier Bouygues à Paris, voilà, une vingtaine de sans-papiers employés par Bouygues, alors directement ou indirectement par le truchement, le paravent des intérimaires, c'est évidemment très voisin. Le reportage d'aujourd'hui suit celui d'hier, c'est le deuxième volet, je vous rappelle de quoi il retourne. Nous sommes allés avec Pascal Pascariello à la journée porte ouverte des coulisses du bâtiment. C'est formidable, pour une fois les chantiers ne sont plus interdits au public ce jour-là, ces trois jours-là, 9, 10 et 11 octobre 2008, levée de rideaux sur les métiers du bâtiment, c'est évidemment intéressant, c'est évidemment passionnant. Mais il y a la question de ces travailleurs sans papier, ces travailleurs sans papier. Et on nous dit que Bouygues, par exemple, mais il y a d'autres entreprises comparables, n'emploient pas de sans papier. Parce que d'abord, ce serait un délit. Et ensuite, évidemment, voilà des entreprises qui, vous le savez bien, sont absolument respectent les lois, respectent le droit et notamment le droit du travail. Alors, comme on avait quelques doutes avec Pascal Pascariello, on a commencé à enquêter hier, et le défi qu'on nous a lancé, celui de prouver qu'il y avait des sans-papiers travaillant directement pour Bouygues, hier on a pu prouver effectivement qu'il y en avait. On va continuer notre enquête aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Devinette, qu'est-ce qui arrive après une crise financière? Allez, c'est facile. Bon, j'y vais. Eh bien, après que des banquiers irresponsables aient ruiné la planète, ce qui arrive à coup sûr, c'est un droit du travail encore plus malmené. Encore plus d'heures sup non payées, de conditions de travail dégradées, et de licenciements pour motifs personnels échelonnés, afin d'éviter ces sinistres plans de sauvegarde de l'emploi, comme ils disent. Justement, l'association citoyenne Bondi Autrement a invité l'inspecteur du travail Jean Filoche à débattre des dernières réformes, comme ils disent encore, du droit du travail, le jeudi 16 octobre à 19h30 à la salle des fêtes de la mairie de Bondy. Ce sera aussi l'occasion de soutenir l'action des 14 salariés de Sanir PLMT en grève depuis le 17 juin, soit 115 jours, et qui occupent leur entreprise jour et nuit depuis 87 jours. À Bondy, il y a le RER E, le tramway de Saint-Denis et le tram-train d'Aulnay. Alors plus d'excuses pour venir débattre avec Gérard Filoche, jeudi 16 à 19h30 à Bondy. Au revoir.
Bonjour à tous. Quel est le point commun entre le DALO, le Livret A et Nantes? Vous ne voyez pas? Notre prochain repère sur le logement, bien sûr. Nous parlerons du logement et du projet de loi Boutin qui est examiné au Sénat, tout ça en pleine crise financière. Pour nous éclairer, la présence de Yves Aubry, de l'asso Une Famille, Un Toit. Rendez-vous donc vendredi 17 octobre à 19h au Méliès, rue des Carmélites, en face du cinématographe. Vous retrouverez toutes ces infos sur notre site repère-nantes.info. À vendredi donc.
Oui, salut Daniel. Oui, bon, mais mes coordonnées, vous les connaissez, hein, évidemment, hein, Gérard de Blois. Hein. Bon, ce que je voulais dire, hein, c'est qu'il y en a ras-le-bol de cette hypocrisie. Hein. La faim dans le monde, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Faut arrêter les conneries. Il y a longtemps qu'on avait trouvé des solutions si vraiment c'était un problème crucial. Tout le monde s'en fout. Hein. La meilleure chose qui peut leur arriver, c'est de mourir à ces pauvres gens. Eh oui. Allez, salut.
Bonjour. Samedi 18 octobre, c'est le troisième anniversaire du Café Repère du 20e. La fête démarre à 15h. Films, débats, danse, lecture, chansons françaises et à 20h, auberge espagnole. C'est au lieu dit 6 rue Sorbier. Bis à tous et à samedi.
Ils construisent des raffineries de pétrole au Cameroun, ils montent des installations portuaires au Maroc, ils lancent des ponts au Koweït et font pousser en plein désert une université complète en Arabie Saoudite. Ils, ce sont les hommes au badge orange, 20 000 hommes dans le monde entier, plus un, le patron, Francis Bouygues. Un patron heureux qui n'a pas peur d'afficher des bénéfices substantiels à faire pâlir tous ses concurrents. La clé de la réussite, on l'affirme sans complexe dans le groupe français, il y a une méthode Bouygues, l'essentiel, être le meilleur, avoir une idée et des méthodes pour l'appliquer.
Les étrangers sont les gens qui ont beaucoup de qualités.
Francis Bouygues.
Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur.
1969.
Qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Ça fait 9 mois et je travaille pour Bouygues. Je n'ai pas de papier.
Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés. Et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et nous quitter quand ils auront un pécule suffisant.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que s'il avait pensé, qu'est-ce qu'il a fait avec ces étrangers-là? Ils ont gâché leur vie pour lui. Et chaque fin de mois, qu'il pique des pognons. Un patron, il peut pas monter comme ça.
Je suis très embêtée. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse des DRH. J'ai rencontré des travailleurs sur papier qui travaillent pour Bouygues, qui ont des badges Bouygues et qui travaillent sur les chantiers Bouygues. Donc ça, j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez.
Ça doit être des intérimaires parce que je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui est pas régulier.
Alors Engel, c'est les coulisses du bâtiment, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est les coulisses du bâtiment. C'est un événement organisé par la Fédération Française du Bâtiment qui consiste à ouvrir 300 chantiers à peu près dans toute la France.
Donc là, on est à l'Université de Jussieu à Paris.
Exactement. Pour vous situer le contexte, c'est qu'on est entreprise générale là, sur le site de Jussieu où on réalise 166 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc vous êtes...
Moi, je suis Bouygues, bâtiment Île-de-France. Donc moi, Jean-François Chède, je suis directeur de travaux adjoint, donc je suis responsable du projet.
Donc là, on se dirige sur le chantier. Là, on est dans une des salles, des futures salles de classe, hein, de cours, j'imagine.
Là, c'est brut de béton, effectivement, ça peut nous pas ressembler.
Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas du tout. Il y a des gens qui viennent de débarquer sur le chantier, je sais pas ce que c'est. C'était pas prévu à la visite?
Ah non, je pense pas, non.
Enfin, devant, il y a écrit quoi sur leur... Vous arrivez à voir, vous?
Excusez-moi, Pascal, faut que j'aille téléphoner. Juste, j'ai fait un coup de fil et je m'occupe de vous, ça ne me dérange pas?
D'accord. Vous faites partie de la Fédération Française du Bâtiment?
Non, GPPF.
Comment?
GPPF Formation. C'est la chambre syndicale de la peinture de Paris, région parisienne.
De la peinture? Et expliquez-moi, parce que là, on peut plus faire les coulisses du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestants qui sont arrivés?
Ce sont des sans-papiers qui sont venus manifester. C'est la surprise.
Je pense qu'ils viennent manifester pour les sans-papiers, oui. Ils ont tous des casques de chantier, ça voudrait dire quoi? Qu'ils ont l'habitude de travailler sur les chantiers?
Moi, je ne sais pas.
Je vais l'emmener, je vous emmène. Vous m'emmenez où?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Massif, j'y suis avec Pascal Pascarniello. Leurs bras nous sont acquis.
Flight number 2.
arriving from...
Alors, il y a tout le monde...
Les on vous emmène.
Ok, ils arrivent.
Pourquoi il faut évacuer le chantier? Si ça vous dérange pas de venir avec moi, parce qu'on vous réfugiez tous, bonjour, mais ils vont pas vous attaquer. Mais les consignes, c'est de sortir du chantier, en fait. Je suis obligée d'arrêter le reportage. Et là, tout le monde arrête. Vous arrêtez les coulisses du bâtiment aujourd'hui?
Oui. Je vais vous demander d'éteindre
votre micro.
Et nous, par contre, on va vous mettre en sécurité ici, d'accord? Et maintenant, par contre, je vais vous demander de couper votre micro.
Je vous suis, donc... Toutes les coulisses du bâtiment, on regagne les bureaux là.
On regagne les bureaux.
Nous, on est en train de regagner les bureaux de la Fédération française du bâtiment.
Là, c'est les cantonnements.
C'est les cantonnements de...
De Bouygues. De Bouygues. Tout à fait, oui.
Les cantonnements, ça s'appelle ?
Les cantonnements, oui.
On dirait que on est en pleine guerre. C'est des travailleurs sans papier qui sont venus investir le chantier.
Allez, ça monte.
Mais c'est pas dangereux, ils sont pas dangereux.
Ah ben, les gens de Bouygues nous font évacuer, on sait pas, ça peut dégénérer. Hein.
Mais pourquoi ils sont pas armés?
On ne sait pas, non, a priori non, mais bon, c'est par mesure de sécurité. Voilà.
Ils occupent tout le chantier là-bas, donc il faut mieux rester.
Et en fait, ils ont tous des casques, c'est ça, c'est les travailleurs sans papier qui.
Ils s'amusent, je veux dire.
Je crois qu'ils sont venus dire qu'ils travaillaient chez Bouygues, c'est ça?
Je sais pas.
Je vais descendre de la tour de Bouygues pour aller peut-être voir les travailleurs sans papier.
Bah, faites attention à vous.
Parce que vous pensez qu'ils sont dangereux?
L'effet de masse, ça peut toujours dégénérer.
L'effet de masse, ça peut dégénérer. C'est pas faux. L'effet de masse, ça peut dégénérer, ça a dégénéré. À certains moments de l'histoire, dégénérer ou régénérer. Bien malin qui saurait faire un bilan historique de ces effets de masse, c'est-à-dire de ces contestations, c'est-à-dire de ces protestations, c'est-à-dire de ces luttes. En voilà une qui dure depuis des années, mais notamment depuis des mois. C'est depuis le mois d'avril notamment, ces salariés sans papier qui demandent leur régularisation. Un certain nombre ont obtenu cette régularisation, mais la lutte continue. Un ouvrier du bâtiment qui vit après 65 ans, c'est un feignant. C'est une petite phrase notée par le sociologue Nicolas Joulin dans son bouquin « Chantier interdit au public ». Ce sociologue a pris le soin de travailler pendant un an sur des chantiers et c'est là qu'il a pris ce genre de notes. Un ouvrier du bâtiment qui vit après 65 ans, c'est un feignant, c'est un ouvrier lui-même qui dit ça. Le bâtiment, c'est dur, c'est très très dur, on le sait depuis longtemps, et c'est encore plus dur pour ces 200 000 à 300 000 sans-papiers qui travaillent sur ces chantiers depuis longtemps et qui aujourd'hui demandent leur régularisation. Quand cette régularisation est généreusement attribuée, il ne faut pas s'imaginer que ces sans-papiers deviennent français, comme un certain président de la République française l'avait suggéré il y a quelques mois. Non, ils ont une autorisation de séjour d'une année qui est renouvelée au bout d'une année. Et évidemment, auprès de l'employeur, c'est un moyen pour cet employeur de fragiliser un peu plus, de maîtriser. Et s'il n'y a pas satisfaction, et il n'y a pas renouvellement de l'emploi, et donc il n'y a pas renouvellement non plus de l'autorisation de séjour. Précariser les étrangers pour tirer le marché de l'emploi vers le bas, c'est l'essentiel de cette stratégie, c'est l'essentiel de cette méthode. On va voir aujourd'hui, dans le reportage de Pascal, cette exigence, cette lutte longue et profonde à travers tout le pays sur des quantités de chantiers, pas seulement d'ailleurs, on l'a vu dans les mois précédents, pas seulement d'ailleurs dans le bâtiment, mais beaucoup dans le bâtiment où ces travailleurs exigent un minimum de droits de reconnaissance. Hier, on a parlé du capitalisme, puisque c'est un mot qui est revenu à la mode et que tout le monde en parle ces jours-ci. Ce mot est revenu au détriment
du cache-sexe qui était le mot libéral. Eh ben, c'est pas mal, profitons-en, ça durera sans doute pas. Et ça nous permet de parler de l'entreprise en général, avec ce mot de Noam Chomsky qui disait « Structurellement, l'équivalent politique de l'entreprise est l'État totalitaire ».
On apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. Les citrons, c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique. Sénégal, Mauritanie, Burkina, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et... Tutti quanti, les colons sont partis avec des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans
l'harmonie.
Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, qu'on l'a bien ratissé, qu'on lui a tout pris, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau, eh ouais.
Oui, c'était dur, ils sont durs que la dure.
Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler.
Je vous m'en parle, oui, c'était dur.
Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour ne pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur face montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Et encore plus au cœur. Et comme il faut parfois manger et puis dormir, dans les foyers taudis on vit dans le sordide. On apprécie le citron, on peut jeter la peau. On peut jeter la peau. Eh ouais. Eh ouais.
Engel. On est devant les travailleurs sans papier. Qu'est-ce
oui, que... je pense que les travailleurs sans papier ou ont profité des coulisses pour manifester. Je sais pas d'où ils viennent. C'est pas forcément des. Je pense pas que c'est des employés de Bouygues.
On va lire.
Alors,
un des travailleurs sans papier nous a donné un papier où il y a écrit justement pourquoi ils manifestent. Est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit, Engel?
Droit devant pour la régulation globale des travailleurs et travailleuses sans papier. Des centaines de travailleurs sans papier du bâtiment.
Embauchés par le biais d'agences d'intérim.
Avec leur soutien, se sont invités ce samedi 11 sur le chantier Bouygues. Lors des journées, chantier ouvert au public organisé par la Fédération française du bâtiment.
Tout d'abord, on salue la mobilisation d'aujourd'hui. Des centaines et des centaines de travailleurs sans papier et leur soutien sur ce chantier de Bouygues, parce qu'on est sur un chantier de Bouygues, vous l'avez tous compris. Bon, c'est la journée porte ouverte sur les chantiers, notamment celui-là, celui de la fac de Jussieu, où Bouygues travaille là depuis un sacré bout de temps, et notamment avec l'utilisation et la surexploitation de travailleurs sans papier qui bossent sur ces chantiers. Alors, c'est pas par hasard que nous sommes sur un chantier de Bouygues. Depuis le 26 août, nous avons à 500 occupé un chantier de Vinci, numéro 1 mondial du BTP, à la Défense, au CNIT. Depuis ce jour-là, nous sommes allés ensuite occuper Bruyoche, où Bouygues donnait un compte-rendu de son bilan semestriel, Et nous sommes allés également au restaurant Le Doyen aux Champs-Élysées, où Eiffage, également un gros donneur d'ordre du bâtiment, donnait également son compte-rendu semestriel. Nous nous sommes donc invités chez ces gros donneurs d'ordre. Nous leur avons demandé une simple chose. Vous, donneurs d'ordre du bâtiment, qui utilisez depuis des années des centaines et des centaines de travailleurs, des centaines de milliers même de travailleurs sans papier sur vos chantiers, vous devez maintenant délivrer des contrats à durée indéterminée à ces travailleurs sans papier surexploités qui vous sont fournis notamment par les boîtes d'intérim. Pour une régularisation, il faut des contrats à durée indéterminée. C'est pour ça que nous avons rencontré Vinci, Eiffage, Rabault-Lutignol et Bouygues il y a de cela 15 jours. Vinci a déjà, cette semaine, lâché une trentaine de contrats à durée indéterminée, notamment pour les camarades de MAN-BTP. Eiffage a commencé à lâcher également des contrats à durée indéterminée. Rabault-Lutignol également. Le seul qui n'est pas répondu, c'est Bouygues. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur un de ces chantiers les plus prestigieux. Bouygues ne sera pas exonéré du fait qu'il doit s'engager lui aussi en tant que donneur d'ordre et en tant que pourvoyeur d'embauche de ces travailleurs sans papier soit exploité à délivrer des contrats à durée indéterminée pour obtenir la régularisation. Donc nous sommes ici pour exiger que Bouygues nous reçoive à nouveau et s'engage concrètement sur la délivrance de ces CDI. Il doit y avoir régularisation.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Moi, par exemple, j'ai ma famille derrière moi. Je suis ici en France depuis 2000. Ça fait 8 ans, ça fait 9 ans. J'ai pas vu ma femme, mes enfants. Je sais pas comment il faut dire. Ça fait très très mal. Vraiment, il y a certains ici qui ont fait 15 ans sans aller au pays. À cause de tes papiers. Parce que tu sais pas comment tu vas retourner ici. Donc, nous vivons ici sans droit. On fait les cotisations, on paye les impôts. La sécurité sociale le sait. Le gouvernement le sait. Tout le monde le sait. On ferme les yeux sur ce droit. On en a marre. On en a marre de vivre comme ça, vraiment. Il faut qu'ils nous donnent ce droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on est samedi 11 octobre.
Ouais. Nous sommes dans un centre de Bouygues, à Zissé. Quand j'ai parlé devant le micro ou devant les caméras, vraiment, je suis très content de leur avoir montré que je suis là. Je suis un sans-papier. On existe encore là.
Vous avez d'ailleurs le casque Bouygues sur la tête.
Ouais, on a le casque Bouygues. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on travaille avec Bouygues. Vraiment, il faut que Bouygues fasse quelque chose.
Moi, je suis venu avec vous. Un matin, on était fatigués. Il fallait pas que le chef de chantier nous voie. Et aujourd'hui, vous arrivez sur le chantier. Vous pouvez vous exprimer.
C'est ma première fois de rentrer dans un sentier de Bouygues pour dire que je suis un sans-papier. Sinon, ça ne m'a jamais arrivé. Donc, ils le savent très bien. Bouygues le sait. Les intérims le savent. On n'a pas la liberté ni rien du tout. En partant au travail, il faut te cacher pour aller au travail. C'est où la liberté? On n'a pas cette liberté, on n'a pas, il n'y a pas l'égalité.
Et venez, on va monter?
Ouais.
D'habitude, vous vous montez dans ces...
Ah oui, on a les mêmes escaliers, c'est nous là-bas, à santé accès à la défense.
Donc là, on est en train de monter les escaliers de l'Algeco.
Ouais.
À notre gauche, on a les bâtiments en construction.
Ouais.
Et là, on est en train de surplomber, donc...
Je vois les sans-papiers devant moi. Donc des centaines de personnes, des milliers de personnes sur le sentier, on ne les voit pas d'habitude. D'habitude, nous, on ne les voit pas.
Il n'y a personne dans l'agence?
Non, vous voulez visiter
l'origine, c'est déjà qui était prévu, je crois, aussi.
Non, là, en fait, c'est occupé par les travailleurs sans papier, qui d'habitude travaillent sur le chantier.
Ouais.
Ouais. Ils travaillent sur le chantier de Bouygues, bien sûr.
D'accord.
Solidarité avec nous, hein.
On est là, en tous les cas. Mais normalement, il devait y avoir du monde de la société Bouygues aujourd'hui, non?
Oui.
Et où ils sont, alors?
Bon, ils sont partis,
c'est toi qui sont partis, hein.
Ils sont partis.
Parce qu'on a occupé les chantiers, donc je suis sûr qu'ils sont partis.
D'accord, ok.
Vous venez visiter les chantiers?
Mon fils, parce que bon, c'est un grand chantier. Et je trouvais ça intéressant que lui voit comment justement les gens y travaillent, quoi.
D'habitude, nous sommes au chantier pour travailler avec les marteaux,
les pères, les POS. Là, aujourd'hui, nous sommes là comme sans papier. On parle de la liberté en France, l'égalité. Il faut que nous aussi, on trouve ses droits. On n'a pas ses droits. Moi, je suis là depuis 8 ans. Je suis un sans-papier. On paye les impôts, on paye les cotisations. Si on est malade, on va où? C'est nous-mêmes qui s'occupent de nous. Parce que nous sommes des sans-papiers, on n'a pas ses droits. Et les cotisations qu'on les fait, ça part où? Je ne sais pas, ça va où? Et pourtant, on travaille, on paye ses droits. Il doit nous donner ses droits. On n'a pas ses droits.
Je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui n'est pas régulier. Voilà.
Alors voilà, c'était la journée porte ouverte et c'est une réussite. Les coulisses du bâtiment, ces trois jours-là, montraient un petit peu l'envers du décor pour ceux qui sont venus là. C'était parfait, c'est ça l'envers du décor. C'est ça les coulisses du bâtiment, ou alors que quoi d'autre? C'est quand même les hommes qui passent d'abord, non? Non? Oh.
J'ai les photos de ma famille, ma mère, ouais.
Vous avez vos photos sur vous, de la famille?
Bien sûr, ça c'est la photo de ma mère.
Ça c'est votre mère?
Ouais, ça c'est ma mère ça. C'est ma femme.
Elle s'appelle comment? Elle est belle?
Aminata. Bien sûr, ça c'est ma première fille. Elle s'appelle Fatimata. Elle s'appelle Fatima aussi.
Et Fatima c'est la deuxième fille?
Elle n'a pas vu depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, donc franchement on en a marre. Franchement parlé. J'ai envie de les revoir. Voilà, c'est pourquoi j'ai amené les photos, pour vous montrer devant et tout. Actuellement, là où je suis, là, ma mère, elle est malade. Elle est hospitalisée. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça. Si jamais demain, après-demain, quand les policiers m'expulsent, comment ma mère va devenir?
Si on vous expulse?
Ma mère va devenir comment? S'il n'y a pas de sous pour la soigner, cela veut dire qu'elle va mourir. On en a marre. Il faut qu'ils nous régularisent, qu'ils nous donnent cette papier pour qu'on puisse travailler et vivre normalement comme tout le monde. Voilà.
On a la marre. Nous sommes tous des intermères. On n'a pas de procès nuit et jour. Il y en a même qui passent le samedi. Et il y en a qui ne prennent jamais de congé. Alors on a la marre. Nous demandons à tous et à toutes de se mobiliser davantage et que la lutte continue. Alors le cas de Bouygues est un cas critique. Je ne vous mens pas, Bouygues, c'était dur. Ils sont durs, durs à cuire. Alors nous demandons à Bouygues et à leur directeur et l'ensemble du personnel de Bouygues de faire un effort parce qu'ils sont parmi les têtes des entrepreneurs de France en matière de travaux du bâtiment. Alors si Bouygues aujourd'hui continue à jouer les durs, c'est qu'ils ne veulent pas du tout faire un effort. Et nous demandons à ce que Bouygues réfléchisse et se relie à la cause de régularisation de tous les travailleurs sans papier réunis ici aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est que la lutte va continuer. On demande à tous que la mobilisation soit au plus fort dans les jours à venir et dans les mois à venir. La lutte ne s'arrête pas ici. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
The enemies of Africa are now praying.
J'arrive à la douane, oh, oh, oh. Le douanier me dit, en slip chaussette s'il vous plaît. Je n'ai rien à déclarer, oh. Rien à déclarer, oh. En slip chaussette s'il vous plaît. En slip chaussette s'il vous plaît. Je marche dans la rue, le contrôle d'identité, eh, eh, eh. Le policier me dit, en slip chaussette s'il vous plaît. La fouille au carré, en slip chaussette s'il vous plaît. Et il me martyrise, en slip chaussette s'il vous plaît. Ma dignité.
Rendez-moi ma dignité.
The enemies of Africa.
Rendez-moi ma dignité.
The enemies of Africa and our
pain. Ask if you're sitting okay.
La lutte des sans-papiers d'origine africaine n'est pas du tout différente des autres luttes des travailleurs depuis des décennies, depuis des siècles, depuis au moins le début du 19e siècle. C'est une lutte de travailleurs
comme les autres pour l'obtention de droits, pour la dignité. L'une des motivations de ces travailleurs, de ces migrants, de ces immigrés, comme on dit, est évidemment la pauvreté, les difficultés dans leur pays. C'est l'une des motivations, c'est pas la seule. Or, aujourd'hui, on évoque la faim dans le monde. 1 milliard de personnes sur cette planète, à l'heure où nous parlons, souffrent de la faim. Le monde développé est en train de dégager des dizaines de milliards de dollars pour renflouer les banques et empêcher les banques de faire faillite. Or, ce même monde ne parvient pas à trouver 1% de cette somme, mettons 1000 milliards, 1% de cette somme pour aider les pays pauvres à surmonter la crise alimentaire. À l'issue de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale récemment, le porte-parole d'Oxfam rappelait que depuis des années, par les politiques qu'elle impose aux pays pauvres, par ses programmes, la Banque mondiale a imposé la monoculture d'exportation au détriment de la petite culture vivrière familiale. Alors aujourd'hui, avec la flambée des prix alimentaires, les pays du Sud en payent le prix. Je dis ça parce qu'il y a un lien, il y a évidemment un lien entre ces politiques qu'il faut bien appeler néolibérales, imposées par le consensus de Washington et mises en œuvre par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons, sans doute la plus importante, du trajet et du parcours et de la lutte aujourd'hui de ces travailleurs venus du Mali qui sont ici la plupart du temps pour aider leur famille là-bas. C'est eux qui font le développement, c'est eux qui très souvent organisent à distance la vie de leur village. Donc il y a l'attitude de ces grandes multinationales dont Bouygues, Vinci, etc. Et puis il y a la vie de ces hommes et il y a la lutte de ces hommes. Voilà, Éric Aubin, qui est secrétaire général CGT Construction de la CGT et qui nous donne quelques précisions.
Non, nous avons indiqué un chiffre encore hier aux fédérations patronales et ils ne nous démentent absolument pas là-dessus. Nous estimons à 2 à 300 000 salariés sans papier dans le secteur du BTP.
200 à 300 000 travailleurs sans papier dans le BTP ?
Tout à fait, nous estimons à ça. Alors on sait que dans la restauration, Daguin, président de l'époque de la fédération qui s'occupe de la restauration, avait estimé de 50 à 100 000 salariés sans papier dans le secteur de la restauration. Nous estimons que dans le secteur du bâtiment et travaux publics, nous aurions autour de 200 à 300 000 salariés sans papier dans nos secteurs. Alors il faut dire que ce sont des travailleurs sans papier ou avec des faux papiers. Mais l'ensemble, nous estimons à 200 à 300 000.
Ils ont des fiches de salaire, ils payent des impôts. En retour, ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale.
Tout à fait. Donc ils n'ont pas le droit effectivement à la protection sociale quand ils sont malades, et y compris quand ils tombent au chômage, puisque l'ANPE doit vérifier la véracité des papiers qui sont présentés. Et donc celui qui se présente avec des faux papiers ou sans papiers, même s'il a travaillé, donc il a cotisé, n'a pas le droit à l'indemnisation à CEDIC. Donc nous nous battons, y compris la CGT, pour que dans un système assurantiel tel qu'il a été conçu en 58, les ACEDIC prennent en compte le fait qu'ils ont cotisé aux ACEDIC et donc qu'ils aient une indemnisation s'ils tombent au chômage. Chez Bouygues, tout le monde sait qu'ils ont un syndicat maison, Force Ouvrière Bouygues, qui est le syndicat maison finalement, qui a les portes ouvertes et qui représente 80% dans l'entreprise, puisque dès qu'un salarié veut se présenter sous une étiquette CGT, finalement il a des problèmes et on le vire. On n'est pas étonné finalement que Bouygues n'ait pas daigné nous recevoir et regarder comment ensemble effectivement traiter le sujet. Alors on va lui montrer, parce qu'il a l'air de nier finalement le fait qu'il y ait des travailleurs sans papier ou qu'il puisse y avoir des travailleurs sans papier sur ces chantiers. Donc on va essayer de lui démontrer que finalement tel est le cas. Si on considère que Bouygues c'est environ 10% des salariés du secteur du BTP, on peut considérer que finalement il aurait entre 10 et 15 000 travailleurs sans papier sur ces chantiers. Alors ce sont les salariés qui sont...
10 à 15 000.
Alors 10 à 15 000, si on y met ensemble les salariés qui ont le statut Bouygues, les salariés intérimaires et les salariés de la sous-traitance. Bouygues, comme les autres d'ailleurs, hein, utilisent la main-d'œuvre précaire, notamment l'intérim. Et donc, le nombre de salariés en fixe, finalement, n'a rien à voir avec le nombre de salariés qui travaillent pour Bouygues, finalement, sur les chantiers. On voit en moyenne des chantiers se déroulent avec 50-60% d'intérimaires. Ce qui est assez marrant aujourd'hui, c'est qu'il est le seul à nier ça. Tous les autres disent, effectivement, il est certainement probable que l'on ait des salariés sans papier sur nos chantiers. Seul Bouygues se permet de nier toute évidence sur ce dossier. Ils veulent jamais admettre, pour eux, l'image de Bouygues va en pâtir, certainement. Donc, on cache finalement ce qu'est la réalité, ce que personne ne nie, ce que tout le monde admet aujourd'hui, quoi.
Oui, c'est Pascal Pascarillo de France Inter. Vous m'entendez?
Oui, attendez. Oui, j'ai essayé de vous avoir tout à l'heure parce que il y a une interview qui est prévue avec Vincent Nico demain matin, je crois, à 11h.
Oui, qui est DRH de Bouygues. Hein.
Voilà, enfin, qui est un des DRH de Bouygues Construction.
Oui.
Alors, je crois que compte tenu de ce qui s'est passé ce week-end, on a eu l'interview, hein, très clairement.
C'est-à-dire?
Voilà, je voulais vous prévenir. Je crois que vous étiez à Jussieu, de mémoire.
J'étais sur le chantier de Jussieu, oui, avec lors des coulisses du bâtiment.
Voilà, exactement, ouais. Mais enfin, compte tenu du contexte de ce qui s'est passé, on va laisser tomber l'interview de demain.
Attendez, expliquez-moi, parce que là, je tombe un peu dénu.
Les questions que vous avez posées, bon, on est peut-être parano, mais voilà.
Vous me refusez une interview maintenant avec des DRH de Bouygues. Je suis très embêtée. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse des DRH. J'ai rencontré des travailleurs sur papier qui travaillent pour Bouygues, qui ont des badges Bouygues et qui travaillent sur les chantiers Bouygues. Donc ça, j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez.
Ça doit être des intérimaires, parce que je vous mets au défi de trouver un salarié Bouygues qui est pas régulier. Et, voilà.
Si, on a montré hier des salariés Bouygues sans papier. On en a montré hier, donc Bouygues, tout simplement, en infraction avec la loi. Et y a, voilà, c'est comme ça. Et voilà une autre preuve.
Ici, M. Dabokoli, que je travaille sur Bouygues depuis 6 ans.
Depuis 6 ans.
Depuis 6 ans que je travaille sur Bouygues, oui. En plein directement sur Bouygues, en CDI.
En CDI.
En CDI, oui. Voilà. Je suis un canalisateur, je suis un projet de tuyau.
Votre salaire est de combien par mois?
Il vaut 1100, 1500 à peu près, quoi. Brut, ouais.
Et vous avez les drapeaux CGT?
Ouais.
La tenue Bouygues.
La tenue Bouygues, la montre Bouygues, tout Bouygues, quoi, voilà.
On m'a dit qu'on devait me mettre au défi de trouver des travailleurs sans papier qui sont directement salariés chez Bouygues, alors.
C'est ce qu'on voulait leur montrer, qu'il a le sans papier chez lui, quoi. C'est aujourd'hui qu'il va voir s'il a le sans papier chez lui ou pas. On va le montrer ça aujourd'hui.
Il y en a beaucoup de sans papier.
Voilà.
Vous êtes combien là, aujourd'hui?
Là, on est en vingtaine, là. Je viens de Mali, moi. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour moi. Je suis très content. Parce que là, on sortait dans le soleil, on voit l'ombre. Hein. C'est ça, quoi. C'est ça aujourd'hui.
Vous sortez du soleil, vous allez à l'ombre.
On voit l'ombre, là. C'est...
Alors, expliquez-moi c'est ça, parce que d'habitude, on dit qu'on va plutôt au soleil quand on est heureux. Vous, pourquoi vous allez à l'ombre?
Avant, parce que c'est un papier, c'est toujours en soleil. On travaille tout le temps au soleil. C'est pas à cause de rien, quoi.
Ça veut dire que c'est vous qui travaillez tout le temps au soleil, c'est ça?
Voilà. Une fois qu'on a régularisation, on est en travail à l'ombre. Ouais.
Vous avez le droit de vous reposer un peu plus à l'ombre.
Voilà. On a le droit de travailler un peu tranquillité, quoi. Ouais.
Voilà, le bonheur africain, c'est de passer du soleil à l'ombre. Ah, voilà. Mais sinon, c'est comme la traduction, c'est de passer de l'ombre à la lumière. voilà, un Africain heureux, mais... heureux de lutter, heureux d'essayer de recouvrer sa dignité, ses droits, mais qui est bel et bien un salarié de Bouygues, un salarié sans papier de Bouygues. On en a présenté d'autres hier. Le point de vue de Jacques Vallet, qui est coordinateur des syndicats CGT du groupe Bouygues et qui, depuis ce matin, occupe un chantier Bouygues à Paris.
Il y a des droits dans ce pays, il faudrait qu'ils soient respectés partout, quoi. Or, oui, il respecte que dalle, quoi. Et on est sur un chantier qui doit appartenir aux douanes, si je ne me trompe pas.
Aux douanes?
Ouais, aux douanes. Et les salariés qui travaillent sur ce chantier se sont mis en grève, parce que c'est les salariés sans papier qui revendiquent la régularisation. Et comme Bouygues refuse de discuter, puisque nous, Fédération, on a écrit à Bouygues pour lui demander de prendre en considération la situation de ces salariés qui travaillent depuis des années chez eux, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sous-traitants ou d'intérim. Et que Bouygues ne veut même pas en discuter. Voilà, donc nous, on veut qu'il les régularise. Et là, il y en a une partie, mais il y en a beaucoup plus que ça si on prend tous les chantiers de Bouygues, quoi, en fait. Quoi.
Parce que là, il y a 20 personnes.
Aujourd'hui, il y a 20 personnes. On devrait les appeler les travailleurs, tout simplement. Sauf qu'ils sont, sans papier, justement, parce qu'on les met dans cette situation-là, en fait. Parce que c'est leurs outils.
Vous me montrez les travailleurs sans papier en disant c'est leurs outils.
C'est les outils de ces gens-là. Ils s'en servent comme tels. Et qu'est-ce qu'on fait un outil quand on ne nous plaît plus, on le jette. Un travailleur sans papier, quand il ne nous plaît plus, on le jette. Voilà, ils sont considérés comme tels. Je veux dire, c'est là que c'est grave. C'est plus des êtres humains, pratiquement. On ne les considère pas comme ça. Je vais donner un exemple. Hein. On a des salariés qui travaillent chez Bouygues, qui ont des contrats de mission, soi-disant. Sauf que les contrats de mission, on leur donne quand la mission est finie. Ça veut dire que quand on les fait partir du chantier, on leur dit, voilà, on te donne ton contrat de mission. Ça veut dire que pendant tout le temps qu'ils ont travaillé, en fait, ils n'existent pas. Ils arrivent en accident, ils se cassent la main, ils ont n'importe quoi, la jambe, etc. et tout. Sauf que les salariés, un mort par jour dans notre profession à peu près. Un mort par jour, qui en parle?
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Personne ne s'en aperçoit quand il y a une grève en France, a dit récemment notre président de la République. Alors, on va finir cette heure avec Fofana, un de ces sans-papiers en lutte, qui raconte son histoire.
Et actuellement, je regrette, franchement parler. Je regrette de venir en France. Parce que si je savais que c'était comme ça, je vais vivre 8 ans comme ça ou 9 ans dans les galères comme ça, franchement, je n'allais pas venir. Maintenant, je n'ai plus le choix.
Ça, vous en avez parlé avec votre femme ou on n'aborde pas ça au téléphone?
Je ne sais pas, mais je regrette un peu quand même. J'ai ma famille derrière moi, il faut les nourrir. Pour les nourrir, il faut faire quoi? Il faut faire un travail. Je suis obligé de faire ce travail-là, même si je n'aime pas.
À votre famille, vous envoyez combien d'argent par mois?
Souvent, ils peuvent faire, si jamais un enfant tombe malade, ou ma mère, ou ma femme. Ça m'arrive souvent que l'enfant tombe malade. Souvent, j'envoie 250, même 300 euros par mois. Souvent. Souvent aussi, c'est 150. Ça dépend. Que travailler? C'est tout. Que du travail.
Que du travail, ça veut dire que vous faites que du travail tout le temps dans la vie?
Ouais, que du travail, c'est tout. Que du travail.
Rassurez-moi, le week-end, vous faites quelque chose?
Non, le week-end, moi, je ne sors pas trop. Parce que j'ai peur toujours de promener. Bon, quand tu n'as pas de papier, tu as peur toujours. Il faut bien regarder avant de sortir. Hein.
Vous mettez les mains sur le front.
C'est bien. On est obligé de vivre comme ça. Vivre 8 ans sans famille, c'est pas facile. Hein. J'ai même pas envie de parler de ça, mais c'est pas le soir. J'ai pas envie de parler de ma famille, surtout. Ça fait très mal. Si j'avais le papier au moins, que je travaille, je peux aller les voir chaque année. Mais c'est pas un homme libre jusqu'à présent pour moi, quoi. C'est pas libre.
Vous êtes pas un homme libre?
Oui, c'est pas un homme libre, moi.
Est-ce que vous auriez aimé naître finalement dans un autre pays pour ne pas être obligé de travailler comme ça, de ne pas faire partie de ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail?
C'est un peu dur. Je me sentais traité comme une esclave. 8 ans sans droit. Sans rien du tout. Je me sens, si vous me demandez, je me sens comme un... Mais je ne me sens pas bien. Je regrette quand même de ne pas aller à l'école, surtout. Parce que peut-être si j'étais parti à l'école, j'allais connaître beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, apprendre beaucoup de métiers et tout. Bah, peut-être que c'est le destin aussi, je sais pas. Moi, maintenant, je ne veux pas que mes enfants ils deviennent comme moi. Hein. Parce que moi, déjà, j'ai mis mes filles à l'école. Parce que moi, maintenant, arrivé en France, je suis devenu quoi? Une manœuvre. Je ne veux pas que ma fille arrive ici demain ou après-demain, devenir une femme de ménage ou autre chose. Il faut qu'elle apprenne quelque chose à faire. Alors moi, j'ai débuté l'école
lundi passé, je crois. Parce que ma femme, elle m'a demandé les fournitures, les sacs, tout. Bon, j'ai envoyé l'argent, elle m'a dit, elle a tout payé. Elle a débuté l'école, donc ça va. Ouais. C'était ce lundi, normalement. Je suis un peu déçu. En plus, ma famille, 8 ans, sans voir ma famille, je ne sais pas comment ils sont maintenant. Le moment que j'ai quitté là-bas, peut-être ma première fille, elle avait l'âge de combien? L'âge de 4 ans ou 4 ans et demi. L'autre, elle avait 2 ans. Jusqu'à présent, je ne sais pas vu. Elles ont déjà grandi là.
Elles ont déjà grandi?
Bah, au téléphone, maintenant, si je les vois, tu viens quand? Comment on fait? On te connaît pas.
On ne te connaît pas? Elles ont dit ou
ouais,
tu
connais? Elles ne me connaissent pas. À l'âge de 2 ans, 3 ans, je ne peux pas me connaître comme il faut. Donc, c'est une situation qui est trop dure à parler même. C'est pas facile. Mais c'est la vie. Bon. Là, je commence à avoir très mal là. C'est pas bon. Ah, c'est dur. Parce que je pense trop maintenant déjà, donc ça va quoi. Parce que sinon, la journée, ça va pas être bien pour moi parce que il y a beaucoup de choses.
D'ici Marie d'André.
Oui, bonjour, excusez-moi, Pascal Bascarillo de France Inter.
Oui, bonjour, je vous rappelle, donc suite à votre demande, Martin Bouygues ne donne que très rarement des interviews et il s'exprime quasiment jamais à la radio ou à la télévision, donc je suis désolée, ce sera malheureusement non pour votre demande.
J'aurais bien aimé avoir son avis ou ses réactions, parce que j'ai pu rencontrer des travailleurs sans papier qui travaillaient sur ces chantiers, pas seulement par l'intérim, hein, c'est ça, qui était directement salarié à l'intérieur du groupe Bouygues BTP.
Mais écoutez, je suis désolée, mais il ne s'exprimera pas, il ne vous donnera pas d'interview. En fait, il ne s'exprime pas à la radio ou à la télévision, donc c'est pas.
Mais pourquoi? C'est un principe.
Oui, c'est un principe.
Mais pour quelle raison?
Je peux vous rappeler?
Pour me donner la réponse de pour quelle raison il s'exprime pas. D'accord.
Bon, je vous rappelle.
Au revoir.
Elle va nous rappeler, la dame. Pour l'instant, elle n'a pas eu le temps de nous rappeler, mais c'est sûr, hein, elle va nous rappeler. Et on ne manquera pas de vous donner la raison pour laquelle M. Bouygues ne daigne pas donner d'explication sur tout cela. Voilà, c'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Fofana, à Colli, à Maddy, Jean-Claude Amara de Droit Devant, à Nicolas Jounin, Jean-Michel de Solidaire, Éric Aubin et Jacques Vallet de la CGT, à lire Chantier interdit au public de Nicolas Jounin à la Découverte, la revue Agone numéro 40, pour titre L'invention de l'immigration paru en 2008, et puis un bon bouquin aussi sur l'immigration fantasme et réalité, dirigé par Claire Rodier et Emmanuel Terret. Et puis par ailleurs, nous vous recommandons, ça c'est Charlotte Perry qui vous recommande le festival Ta Parole, qui se tiendra les 17, 18 et 19 octobre à La Parole Errante, 9 rue François Deberghe, à Montreuil-sous-Bois, tout près de Paris. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Rémi Quincet. C'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutier qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.